Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1 dans ce 5h-6h30 que j'ai l'honneur d'animer à vos côtés, Omblin, d'égal à égal. C'est une matinale paritaire qu'on va vous présenter du lundi au vendredi.
Oui, et avec toujours de la bonne humeur, comptez sur nous, de la curiosité. Évidemment, ça aide à s'extraire plus facilement du lit. Et puis, les toutes dernières infos pour accompagner votre café, pour éclairer votre début de journée.
Reportage, éclairage dans vos journaux tous les quarts d'heure, décryptage dans les trois interviews qui vont rythmer cette matinale des leftos ou des couches.
L'interview actuelle à 6h12 et cette question ce matin, où en est la quatrième vague à l'heure de la rentrée? Vous en parlerez, Julien, avec la virologue Christine Rouziou.
Et une demi-heure plus tôt, à 5h40, vous reviendrez, Omblin, sur cet énorme incendie qui a ravagé le Var la semaine dernière. Comment est-ce que la nature, la faune et la flore peuvent-elles renaître de ces cendres? Est-ce que c'est seulement possible? C'est l'analyse à venir du biologiste Romain Garouste.
Et puis, dans 20 minutes, les initiatives en France, ça c'est un nouveau rendez-vous qu'on vous propose et qu'on vous proposera chaque matin, celles et ceux qui font bouger notre pays. Vous allez parler colocation, Julien, plus précisément, d'une plateforme qui simplifie la vie des bailleurs et des locataires.
Et puis la culture va aussi avoir une grande place dans cette matinale. Deux grands rendez-vous à ne pas manquer.
Oui, s'il vous plaît, la prescription culture à 6h moins le quart. Et tous les lundis, on va parler série avec Margot Barallon. Elle va nous parler d'un entraîneur de foot qui ne connaît rien au foot.
Ça promet. Et le retour aussi de votre partition, Omblin, pour la troisième saison consécutive. C'est un rendez-vous qu'on adore. Qu'est-ce qu'on écoute ce matin?
Les années 60 ont eu les Velvet Underground. Dans les années 90, Radiohead flirtait avec les sommets. Eux, ils sont ceux qui ont sauvé le rock au début du 21e siècle. Jean moulant, veste en cuir et basket Converse aux pieds. Les bien lookés, comme leurs adeptes, les Strokes.
Les débuts et la sortie du premier album de The Strokes il y a 20 ans, c'est dans votre partition à 6h20 qu'on ne manquera pour rien au monde. Voilà pour le programme de votre 5h-6h30.
Mais d'abord la météo, et c'est avec Anissa Haddadi. Bonjour Anissa.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Deux ambiances bien différentes en France aujourd'hui.
Ah oui, alors en effet, on va avoir effectivement deux lundis bien différents. Alors d'abord, pour toutes les régions situées au nord de la Loire, nous aurons un temps couvert, avec même au nord de la Seine des petites averses. Aujourd'hui, c'est très automnal. Dans l'après-midi, sur la moitié nord, le ciel aura du mal à se dégager. Bref, vous l'avez compris, si vous habitez au nord de la Loire, aujourd'hui c'est gris et c'est pull pour tout le monde. Au sud, bah là c'est l'été qui se poursuit avec des températures élevées et un soleil qui brille généreusement. Sur la Côte d'Azur, vous aurez un petit peu de grisaille à cause des entrées maritimes. Alors côté température, eh ben ça suit le ciel, hein, avec 12 à 16 degrés seulement ce matin au nord, 12 à Brest, 16 à Paris et jusqu'à 22 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, nous aurons 19 à Boulogne-sur-Mer, 24 à Paris et par exemple 33 au bord de la Méditerranée.
Ah oui, c'est pas mal. Merci beaucoup Anissa.
C'est différent.
Oui, effectivement, on vous retrouve dans une demi-heure. Mais avant, c'est le premier journal de cette matinale. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Une épidémie toujours hors de contrôle dans les Antilles, des hôpitaux submergés en Guadeloupe et en Martinique. La Martinique où les autorités mettent en place un comité citoyen pour lutter contre les fausses informations autour du vaccin. Reportage dans ce journal. Trois morts ce week-end dans des règlements de compte probablement liés au trafic de drogue à Marseille. Constat d'impuissance des élus locaux. Dans ce journal, réaction de Samia Ghali, élu des quartiers nord. Il continue de tracer sa route. Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, refuse toujours de participer à la primaire. Il s'est montré discret cet été. Il fait sa rentrée politique sur Europe 1, invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Quand le recyclage des masques chirurgicaux permet de fabriquer des fournitures scolaires, ça se passe en Haute-Garonne. Reportage à suivre. Le football, soirée indigne du foot pro hier soir à Nice. Le match entre Nice et Marseille interrompu après envahissement du terrain par des supporters niçois qui voulaient en découdre avec un joueur de l'OM. Et le journal de 5h vous est présenté par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour Omblin. Plus les jours passent et plus l'épidémie de Covid semble hors de contrôle dans les Antilles. Les hôpitaux sont débordés, les services de réanimation saturés et le virus continue de faire des morts. En Guadeloupe, il a fallu installer des conteneurs réfrigérés pour soulager la morgue de l'hôpital. Et alors que dans ces territoires, le taux de vaccination n'est à peine que de 25% de la population, les autorités doivent par-dessus le marché combattre les idées reçues, les fake news news qui envahissent notamment les réseaux sociaux. D'ailleurs, en Martinique, un comité citoyen pour la transparence a même été mis en place. Florin Aussu est notre correspondant à Fort-de-France.
L'ivermectine permet-elle vraiment de soigner le Covid? Les stocks d'oxygène sont-ils suffisants à l'hôpital? Les patients admis aux urgences sont-ils vaccinés? Autant de questions et souvent de fake news qui fleurissent sur le net. Grâce au travail du comité, Ludovic, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, espère démêler le vrai du faux.
Beaucoup de personnes cherchent des informations. Il y a les convaincus, il y a les hésitants, il y a les réfractaires. Mais ça reste un sujet entier sur lequel on a besoin de beaucoup d'informations. Pas de mensonges découverts pour l'instant de la part du gouvernement, mais peut-être un manque de précision sur les informations qui sont données.
Une crise qui divise la population martiniquaise depuis des mois et la situation doit s'arrêter, selon le sociologue André Lucrèce. C'est pour cela qu'il a accepté de participer aux travaux du comité.
C'est fait pour apaiser, parce que ces tensions qui existent et cette radicalité qu'il y a, si vous voulez, dans les convictions de chacun, ça n'amène rien de bon.
Une première synthèse des éléments obtenus par les membres du comité doit être publié cette semaine sur Internet. À Fort-de-France, Florin Aussu, Europe 1.
Au niveau national, plus de 2000 personnes restent toujours placées en soins critiques dans les hôpitaux. Dans l'optique de la rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a confirmé hier que la campagne de vaccination sera mise en place pour les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent.
Un contexte de pandémie qui fait fleurir les escroqueries sur le net.
Vente de faux certificats de vaccination, de QR codes, voire même proposition de remboursement d'impôts vaccins. Et oui, ça existe sur Internet. Il faut vraiment se méfier de ces propositions trop alléchantes, Gladys Laffitte.
Ah oui, et les cyber-escrocs ne manquent pas d'imagination. Des victimes appellent la plateforme en évoquant des faux QR codes sur les réseaux sociaux ou encore de faux emails en tête des finances publiques proposant des remboursements d'impôts vaccins. Tout cela est frauduleux et si les escrocs surfent sur ce créneau, c'est notamment parce que l'usage d'Internet s'est intensifié depuis la crise du Covid. C'est ce qu'explique le major Marc Conraud, chef d'info-escroquerie.
Pour les escrocs, ça constitue vraiment un cheptel de victimes important. Ce sont des sites qui sont très volatiles. Il y a un maximum de victimes en très peu de temps. Une fois que les autorités sont au courant, elles font fermer les sites. Et du coup, l'escroc, il recommence à un autre site, à un autre endroit. Et puis, il continue son petit bonhomme de chemin.
20% de ces arnaques sont ce qu'on appelle du phishing, comprendre hameçonnage. Les escrocs sont en fait à la recherche de vos données personnelles, selon Marc Conraud.
Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, éventuellement votre adresse, votre boîte mail, des données bancaires qui vous concernent, des données financières, je vais pouvoir les utiliser pour me faire passer pour vous et puis générer des infractions. La donnée personnelle, c'est une marchandise, donc ça se vend.
Mais il n'y a pas qu'Internet. Hein. Les escroqueries au téléphone ont quasiment doublé en ce début d'année. Les forces de l'ordre préviennent. En cas de doute, ne pas divulguer de données personnelles et contacter les plateformes gouvernementales.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe.
Venons-en maintenant à ces probables règlements de compte liés au trafic de drogue qui ont fait 3 morts ce week-end à Marseille.
2 personnes abattues samedi soir dans les quartiers nord. Une troisième retrouvée brûlée dans sa voiture. Un scénario qui se répète sur fond d'impuissance, il faut bien le dire, des pouvoirs publics et qui n'étonne pas Samia Ghali, adjointe à la mairie de Marseille.
Quand ça tire tous les jours dans un quartier, vous avez la peur qui s'installe et que vous avez 99% de la population de ces quartiers qui a envie d'en partir. Excusez-moi, mais s'il y a un autre mot, qu'on me le trouve. On est face à une situation de cartel, donc comme une situation de cartel, vous avez des guérillas dans la ville. Trafic d'armes, puissance, pouvoir. Après, il y a tout qui s'entremêle. Ils récupèrent des jeunes de plus en plus jeunes pour mieux les maîtriser, alors qu'à faire que même les parents ne maîtrisent plus. Et à chaque fois qu'on joue avec des chiffres de policiers, c'est-à-dire qu'on enlève, on remet, et puis on enlève parce qu'on a besoin ailleurs. Et bien à un moment, vous vous retrouvez dans une situation qui est comme celle-là. Moi, j'entends souvent dire qu'il y a eu moins de morts qu'en 2012, mais si vous additionnez les blessés, on a certainement déplacé les chiffres de 2012. Il y a un travail collectif à avoir. Les collectivités, tout le monde doit s'y mettre, tout le monde.
Samia Ghali, adjointe à la mairie de Marseille. Des propos recueillis par Laura Taouchanoff.
La politique, il sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h15. Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle, repart en campagne après un été plutôt discret.
Oui, mais alors que Valérie Pécresse et Philippe Juvin se sont eux aussi lancés officiellement dans cette course à la présidentielle du côté de la droite parlementaire, eh bien cette relative discrétion ne l'a pas empêché de peaufiner sa stratégie, Louis Dragnel.
Oui, en fait, Xavier Bertrand n'a pas vraiment pris de vacances. Tout le contraire, il a profité de la trêve estivale pour sillonner le pays, les lieux de vacances des Français et immortaliser ses rencontres sur les réseaux sociaux. Quand il a coupé pour souffler en famille, en Corse ou à la Croix-Valmer sur la Côte d'Azur, c'est pour mieux dévoiler son intimité dans Paris Match avec sa femme Vanessa. L'occasion de partager des photos de son enfance et de faire découvrir une ancienne passion pour le karting. Pour résumer, une communication estivale qui ressemble beaucoup à celle d'un certain Nicolas Sarkozy avant sa campagne victorieuse de 2007. Alors, derrière ces belles images, Xavier Bertrand n'a pas oublié le ring politique en reprochant hier à Emmanuel Macron d'être naïf sur l'islamisme. Car dans l'immédiat, un seul objectif pour Xavier Bertrand, tout faire pour essayer d'apparaître comme le candidat naturel de la droite avant la fin septembre, pour éviter l'organisation d'une primaire et donc la possibilité de se retrouver en 2022 face à un autre candidat de droite. Autant dire le pire scénario pour Xavier Bertrand, qui le sait parfaitement, si la droite présente deux candidats, la défaite est presque assurée.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe.
L'actualité à l'étranger. Une semaine après leur prise de pouvoir en Afghanistan, les talibans lancent une nouvelle offensive contre les zones de résistance dans la vallée du Panjshir.
À Kaboul, les évacuations de l'aéroport se poursuivent dans une atmosphère toujours aussi chaotique. Une sixième rotation du pont aérien mis en place par la France a permis hier d'exfiltrer 250 personnes, des Français mais aussi des Afghans. Et puis Haïti, nouvelle aggravation du bilan du séisme qui a ravagé l'île le 14 août dernier. 2200 victimes, 340 disparus et pratiquement plus aucun espoir de retrouver des survivants dans les décombres qui continuent cependant d'être fouillés par les sauveteurs.
Retour en France avec cette expérience intéressante, celle de recycler des masques chirurgicaux, des masques jetables.
Oui, qui sont un véritable fléau, hein. On le sait pour l'environnement quand ils sont abandonnés dans la nature ou même sur le trottoir tout simplement. Et bien figurez-vous qu'une commune de Haute-Garonne a trouvé le moyen de faire recycler ces masques usagés pour qu'ils soient transformés en fourniture scolaire. Reportage Benjamin Péter.
Hop. C'est toi qui es rapporteur, toi c'est les équerres, puis là vous avez les règles.
Thierry Fourcassier les a reçus il y a quelques jours. 300 kits scolaires réalisés notamment à partir des 20 000 masques qu'ils ont récoltés depuis le mois d'avril. Pour le maire, l'idée de départ c'était d'éviter que les masques jonchent les trottoirs.
On a mis des points de collecte dans les écoles publiques, dont les enfants des écoles jettent leurs masques puisqu'ils en ont deux par jour. Il y a également des commerces, des entreprises qui l'ont fait, mais les écoles, on a voulu le mettre. On les habitue à le faire dans les écoles publiques et privées, qui ne jettent pas n'importe où et puis qui donnent peut-être de bonnes habitudes à leurs parents. Hein.
La ville s'est ensuite tournée vers une entreprise de la Vienne spécialisée dans le recyclage et ils ont choisi de les transformer en équerres, règles et rapporteurs en dégradés bleutés qui rappellent la couleur des masques. Une façon pour les élèves de voir concrètement les résultats de leurs efforts.
On s'est dit peut-être qu'on pourrait également faire d'une pierre deux coups avec transformer les masques chirurgicaux en affaires scolaires pour les gamins des écoles. C'est un cercle vertueux avec on voit ce qu'on est obligé de porter, on le jette dans un point de collecte, après c'est récupéré, c'est recyclé et retour à l'envoyeur avec les enfants des écoles qui récupèrent ces affaires.
Et dès la rentrée, les 270 écoliers de CM1 et CM2 de la ville recevront ce matériel gratuitement. À Saint-Jory, Benjamin Péter, Europe 1.
On termine avec le football et cette soirée cauchemardesque hier soir à Nice pour le dernier match de la troisième journée de Ligue 1.
Oui, Lille-Nice menait 1-0 face à Marseille quand Dimitri Payet a reçu une bouteille sur la tête au moment de tirer un corner. Le joueur renvoie la bouteille en tribune vers les supporters niçois. Envahissement du terrain, interruption du match, altercation en tribune entre l'entraîneur marseillais et le président de Nice. Après 1h45 d'interruption, le match n'a pas repris. Reste à savoir maintenant qui sera déclaré vainqueur de la rencontre. Cela se jouera sur tapis vert, comme on dit, devant les autorités du foot pro. On y reviendra largement dans le journal de 5h30 avec Jean-François Pérez qui était à l'Alliance Riviera de Nice hier soir.
Merci beaucoup Lionel Gougelot pour ce journal. Prochaine édition complète dans une demi-heure.
Il est 5h10 sur Europe 1, l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Clairefontaine et mon pari gagnant sera le 901 Bel Aristo. Dans cette épreuve qui réunira un lot hétéroclite de 16 partants, il possède assurément les meilleurs titres. Irréprochable depuis ses débuts en compétition, n'ayant jamais terminé plus loin que 4e, sans pour autant avoir réussi à s'imposer, ce poulain perfectible va évoluer pour la première fois cet après-midi sur 2900 mètres, une distance en adéquation avec ses aptitudes, ce qui lui permettra ainsi de remporter sa première victoire. Alors notez bien, pour cet après-midi à Clairefontaine, réunion 1 dans la 9e course, le numéro 1, Bel Aristo.
C'est noté, merci Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du quintet.
Excellente matinée, excellent réveil avec nous sur Europe 1. Vous restez, c'est le pressing qui arrive dans un instant.
Les articles qui nous ont tapé dans l'œil et qu'on va vous raconter avec le sourire. À tout de suite sur Europe 1.
Au cœur de l'actualité, Europe Matin prend un temps d'avance.
Nouveauté Europe 1.
Dimitri Pavlenko.
Retrouvons-nous pour Europe Matin, 6h30, 9h, c'est votre matinale info. L'info à chaud, décryptée par nos spécialistes, l'interview de Sonia Mabrouk, le regard de Mathieu Noël. Tous les matins, échangeons points de vue et analyse pour mieux comprendre ce monde qui change.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Rendez-vous tout à l'heure, 6h30, sur Europe 1, votre appli ou europe1.fr.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h12 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est pile le bon moment pour le pressing.
Oui, vous avez bien raison, le meilleur de la presse du jour raconté par vos deux serviteurs. Et puis Martin Lorge qui vient de nous rejoindre. Bonjour Martin.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Ravi de vous retrouver, de vous avoir à nos côtés pour cette nouvelle saison. On commence avec les unes de vos quotidiens. L'économie va mieux, la bonne surprise de la rentrée. Voilà ce que nous dit aujourd'hui en France. Indicateur au vert, chômage en baisse avec un taux à 8% et une croissance estimée à 6% cette année. Le ciel se dégage. De l'économie aussi à la une de Libération qui propose un dossier sur la semaine de 4 jours. Travailler moins pour employer plus. 20 ans après les 35 heures, la question de la réduction du temps de travail refait surface en ces temps d'économie chamboulée par la crise sanitaire, écrit Libé. Et puis, l'Ukraine tente de sortir la Crimée de l'oubli. C'est la une ce matin du Figaro. Kiev organise en effet aujourd'hui un sommet international pour remettre la pression sur la Russie, 7 ans après l'annexion de la péninsule. Voilà pour les unes, Ombline. Quel article vous a particulièrement intéressé ce matin ?
Eh bien, en regardant votre télé, vous êtes sans aucun doute déjà tombé en zappant, hein, j'imagine, sur les émissions qui suivent des policiers ou des gendarmes en pleine action. Alors elles s'appellent ces émissions Appel d'urgence, Enquête sous haute tension ou bien sûr Enquête d'action.
Vous connaissez l'origine de l'incendie ?
Aussi bien mobilisés en ville que dans les campagnes environnantes, ils sont toujours en mouvement et pas un jour ne se ressemble.
Voilà, avec cette voix hyper sérieuse. Hein, toujours en mouvement. Enquête d'action, une émission qui offre des beaux résultats d'audimat à W9, notamment l'été, ça fonctionne très très bien pendant les vacances. C'est Libération qui en parle ce matin dans les coulisses de ces Flix Stories à succès. Il semblerait bien que ce qu'on voit à l'écran, ben, c'est pas forcément la réalité. Vous vous en doutiez peut-être
un petit peu scénarisé.
Ouais, un pur produit télé, voire des films institutionnel, il ne faudrait pas embarrasser le ministère de l'Intérieur. J'aime beaucoup ce que dit ce réalisateur spécialiste de ce genre de produit. Produit qui ne coûte pas cher, hein, l'une des raisons pour lesquelles les chaînes de la TNT en sont friandes. Alors dans les faits, boîtes de production et services de communication de la police et de la gendarmerie travaillent main dans la main. Et ça passe par un document qui s'appelle une convention de tournage, prière de diffuser un portrait flatteur des forces de l'ordre. Hein, rien ne doit dépasser. Le journaliste éteint sa caméra si ça dérape.
Ah oui, quand même.
Voilà. Et le film, c'est peut-être pire ça encore, le film est visionné par qui de droit avant diffusion. Voilà donc cette convention de tournage qui ressemble plus à un laisser-passer pour intégrer les brigades.
Oui, du public-reportage, on peut le dire. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon.
Oui, c'est une pub. La gendarmerie justifie cette manière de faire pour protéger ses agents. Et cette convention de tournage était aussi au centre des tensions l'an dernier entre policiers et journalistes. Un rapport depuis préconise à ce que les conditions de tournage soient allégées, avec notamment en moins l'accord préalable à la diffusion des reportages qui sont quand même, ça tombe sous le sens. Autre point épineux, ce sont les atteintes aux intérêts de la personne, en l'occurrence la personne qui est en train d'être arrêtée ou chez qui les forces de l'ordre sont en train de perquisitionner. Le moment est télévisé, eh bien l'enquête est annulée. Voilà, pour les magistrats, la simple présence d'un tiers étranger à l'enquête est suffisante pour entraîner la nullité de l'acte. Alors rassurez-vous, ce ne sont pas les arrêts de la Cour de cassation qui vont décourager les chaînes et les boîtes de production. Le genre n'est pas prêt de s'essouffler, c'est ce que nous dit ce matin Libération.
A raison, ce qui serait bien, Ombline, et je pense que vous partagez mon avis, c'est que tout ce que vous venez de nous décrire soit précisé peut-être au préalable avant la diffusion de ces documentaires, enfin de ces émissions, qui sont par ailleurs utiles, puisqu'ils montrent aussi certains aspects de la vie des policiers et des gendarmes qui font un travail remarquable pour la grande et l'extrême grande majorité.
Disons que c'est pas faux, on va dire que c'est édulcoré, voilà, que c'est un peu embelli, quoi.
Merci Ombline pour cet article donc à lire dans Libération. Martin Lange, à vous. Quel article avez-vous choisi dans la presse ce matin ?
Eh bien ce matin, on repart en vacances, Ombline et Julien.
Ah, je
fête. Parce que la rentrée, ça va deux minutes, n'est-ce pas ?
Non.
Alors direction la Sardaigne, je ne sais pas si vous êtes partant.
La Sardaigne, la toujours, Sardaigne. Maintenant.
Jamais été, mais ça a l'air magnifique.
Ah bah oui.
Voilà, et je vais vous parler des fameuses plages roses et d'une pratique qui menace l'écosystème de l'île italienne, le vol de sable. Et oui, beaucoup de touristes séduits par ces légendaires plages roses repartent les valises pleines de sable, mais récupérer ce sable est totalement illégal. Une loi l'interdit depuis 2017. Et cet été, la police italienne a sévi 1000 euros d'amende pour des touristes pris le sable dans le sac sur la plage de Cabras.
1000 euros d'amende,
c'est pas donné. C'est le site Slate qui nous raconte leur larcin, reprenant une info du Guardian. Alors, un cas loin d'être isolé. En 2019, par exemple, un couple de Français s'était fait arrêter avec 40 kilos de sable au moment d'embarquer dans leur ferry.
40 kilos.
On imagine que les valises devaient peser un peu lourd.
Oui, c'est pas un souvenir, c'est pas un petit échantillon qu'on va mettre sur ton étagère.
Il faut que les valises soient étanches. Sinon,
exactement.
On sème tout le long du trajet.
On en retrouve un peu dans ses sous-vêtements.
Oui, c'est vrai.
Alors, on pourrait penser que prendre quelques grains de sable sur des plages qui en comptent des milliards, ce n'est pas bien grave. Mais le fameux sable rose sarde est en réalité très rare. C'est un sable fossile qui contient des éclats de quartz et qui met des millénaires à se former. Chaque grain perdu, on ne le retrouve pas, explique le maire de Cabras, cette commune sarde. Et chaque année, les autorités estiment que c'est plusieurs tonnes de sable qui sont dérobées, de quoi menacer durablement les plages et donc l'attrait touristique de l'île. Une brigade spécialisée a même été créée pour lutter contre ces vols. Des voleurs qui, la plupart du temps, sont de simples touristes qui souhaitent rentrer chez eux avec un souvenir. Mais il existe aussi de véritables collectionneurs de sable avec un marché en pleine explosion, notamment sur Internet. Et figurez-vous que le sable sarde est celui qui se vend le plus cher.
Merci beaucoup, Martin. On ira juste s'allonger sur le sable. Le sarde, c'est mieux.
C'est quand même mieux pour s'allonger, effectivement, et pour bouquiner.
Et puis sur place, donc. On termine ce tour de table avec vous, Julien.
Et cet article à lire ce matin dans Aujourd'hui en France. En concession, les clients rongent leurs freins. On a beaucoup parlé ces derniers mois de la pénurie de semi-conducteurs, ces puces électroniques qui sont devenues l'alpha et l'oméga. On en trouve partout, dans nos ordinateurs, nos téléphones, nos machines à laver et donc dans nos voitures, dans les tableaux de bord, plus précisément, désormais bardés d'écrans qui ont besoin de processeurs pour fonctionner. Cette pénurie, raconte l'article, avait déjà perturbé les départs en vacances puisque certains clients n'avaient pas reçu à temps leur nouveau véhicule. Eh bien, elle va aussi impacter la rentrée. Depuis ce matin, le groupe Stellantis, ex-PSA, a suspendu la production du site de Rennes pour les 5 prochains jours. Et de son côté, le site Toyota de Valenciennes va reporter de 2 semaines la reprise après la fermeture d'été. Résultat, les délais de livraison vont forcément s'allonger. 15 jours à 3 semaines supplémentaires pour une Yaris produite en France qui fait mauvais genre vu que la toute nouvelle déclinaison, la Yaris Cross version SUV, vient d'arriver en concession. À celle de Peugeot, la concession Peugeot de Garenne Colombes, un conseiller commercial indique que les véhicules commandés aujourd'hui ne seront pas livrés avant au mieux la fin de l'année. Et encore, ça ne concerne que tous les nouveaux modèles que privilégient les constructeurs. Le peu de puces qu'ils ont, ils les mettent dans les tout nouveaux modèles. Ouais. En revanche, pour ceux plus anciens, comme le Rifter, un utilitaire Peugeot, là, il faut patienter 10 à 12 mois.
C'est beaucoup quand même.
Je suis tombé de l'armoire. Peste Laurent qui était venu se renseigner. Voilà qui conclut le pressing du jour. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
Et courage à vous si vous partez déjà au travail, il est 5h19. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner et surtout pour vous informer.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Et pour vous informer justement, une nouveauté, c'est le journal permanent.
Un rappel de l'actualité, les tout derniers développements donnés en temps réel par Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Julien, bonjour à tous. En Afghanistan, les talibans annoncent une offensive contre la vallée du Panjshir. C'est la seule zone qui leur résiste encore. Ils auraient envoyé des centaines de combattants. Pendant ce temps, les évacuations se poursuivent tant bien que mal à Kaboul. Une campagne de vaccination via les collèges et lycées débutera dès la rentrée scolaire en France pour les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent, annonce hier du ministre de l'éducation dans un entretien au journal du dimanche. 4 jours après la mort d'un adolescent près d'un point de deal à Marseille, 3 hommes ont été tués ce week-end dans ce qui s'apparente à un nouveau règlement de compte sur fond de trafic de drogue. La violence aussi sur les terrains de foot. Le match Nice-Marseille a dû être stoppé à la 75e minute hier. Des supporters ont envahi le terrain après plusieurs jets de projectiles.
Merci Élise Dangean, vous retrouve dès que l'actualité évolue. On développera tous ces titres évidemment dans le journal de 5h30 avec Christophe Lamarre.
Et une respiration à présent, les initiatives en France chaque matin. On va au plus près de chez vous pour mettre en lumière ces petites actions qui font avancer le pays. Ils sont élus, ce sont des associations, des entreprises. Eh bien, vous avez la parole. Et ce matin, Julien, eh bien, à l'occasion de la rentrée, on s'intéresse à la colocation très prisée des étudiants. Mais pas toujours simple à mettre en place. Il existe une solution, c'est le site Coloc&You.
Bonjour Élodie Sétruc.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes la cofondatrice et la patronne de Colloc & You. Que propose exactement votre service ?
Colloc & You, c'est une plateforme dédiée et adaptée à la colocation. Et à la différence des différents sites existants, c'est qu'on va intervenir pas seulement sur de la mise en relation au moment de la recherche de logement ou de colocataire, mais tout au long de la durée du bail avec différents outils qui sont vraiment adaptés pour la colocation, donc le suivi technique, la gestion des charges, etc.
Quand vous dites que vous faites le suivi technique, donnez-nous des exemples.
Par exemple, nous, on va proposer au colocataire de déposer un dossier unique en ligne, donc il aura une seule fois constitué son dossier. On va l'accompagner sur les documents à fournir en fonction de sa situation. Et ensuite, il pourra envoyer autant de fois qu'il le souhaite son dossier jusqu'à ce qu'il trouve sa coloc idéale. Côté bailleur, on va proposer la génération du contrat de bail de la colocation pour le nouveau colocataire. On va proposer la génération de l'état des lieux également, donc évidemment qui est à paramétrer lors de la première utilisation et ensuite qui se fait vraiment en 2 minutes pour les bailleurs, donc il y a un réel gain de temps. Donc ça, on est plus sur la partie voilà entrée au sein de la colocation et ensuite pendant toute la durée de vie du contrat de bail, par exemple la gestion des sinistres, le colocataire va pouvoir déclarer son sinistre directement via la plateforme de façon très intuitive en précisant depuis quand il a pu constater le sinistre, ajouter des photos, dans quelle pièce ça a eu lieu, ce que ça concerne, etc. Ce qui va alerter le bailleur, les autres colocataires, évidemment tout ça au sein de la même interface pour qu'ils puissent tous échanger et résoudre le problème dans les meilleurs délais.
Et c'est gratuit tout ça ?
Alors c'est gratuit pour les colocataires, entièrement gratuit pour les colocataires. Et pour les bailleurs, c'est sous forme d'abonnement, donc avec un tarif à 3,98€ par chambre par mois.
Alors imaginons que je possède un appartement avec 3 chambres disponibles que je souhaite louer. Qu'est-ce que j'ai à faire ou pas d'ailleurs ? Parce que vous faites beaucoup de choses à ma place.
Oui, en fait, c'est vous qui allez interagir directement avec les colocataires. Nous, on vous propose uniquement l'outil. On ne se positionne pas du tout en tant qu'agence. Donc, en fait, vous allez arriver sur Colloc & You. Vous allez pouvoir créer vos chambres directement sur la plateforme pour que vos annonces soient en ligne dans l'immédiat, évidemment, si elles sont toutes les 3 disponibles à ce moment-là. Si, par exemple, il y en a une qui est déjà louée, vous pourrez directement ajouter le colocataire sur la chambre concernée de façon à ce que lui, justement, puisse interagir avec vous via la plateforme. Et ensuite, pour les 2 chambres disponibles, supposons, les colocataires vont pouvoir directement vous envoyer leur dossier via la plateforme de façon à ce qu'il soit directement complet et que vous n'ayez pas à faire plein d'allers-retours parce qu'il manque un document, etc. etc. Ensuite, si vous choisissez de valider un des dossiers, directement, vous pourrez générer le contrat de bail ainsi que l'état des lieux des nouveaux colocataires sur Colloc & You.
Donc, les colocataires ne peuvent pas se rencontrer au préalable pour voir si ça colle entre eux. Tout est décidé par le bailleur.
C'est libre en fonction des choix de chacun. Le site n'empêche pas des visites en présentiel, en physique, etc. Ça, c'est juste pour la validation du dossier. Évidemment, il peut y avoir une visite qui se fait entre les deux avant que le colocataire envoie son dossier pour cette colocation.
Comment vous êtes venue cette idée de créer ce service et depuis quand d'ailleurs est-il en ligne ?
Alors, le site a été lancé en début d'année 2021 et l'idée m'est venue parce qu'en fait, je travaille dans le milieu de la colocation depuis un peu plus de 8 ans maintenant. J'ai travaillé en agence pendant 5 ans et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements, qu'on était sur un marché qui était quand même assez porteur puisqu'il représente environ 10% du marché locatif et que pour autant, c'était un marché qui n'était vraiment pas structuré. Et donc, j'ai cherché une solution pour automatiser et optimiser les process chaque étape de la vie en colocation de façon générale, autant pour les colocataires que pour les bailleurs, pour vraiment leur simplifier la vie, leur fluidifier la vie et maintenant, du coup, via Colloc & You, participer un peu à la structuration aussi de ce marché-là, de façon à ce qu'à terme, les colocataires puissent bénéficier du même professionnalisme que celui qui va encadrer la gestion de location traditionnelle.
Quel est le profil type des colocataires ? On pense instinctivement aux étudiants, mais j'imagine que le public est plus large.
Beaucoup plus large que ça. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a plus de jeunes actifs en colocation que d'étudiants, bien qu'il y en ait quasiment autant. Mais ça y est, la majorité a été dépassée par les jeunes actifs. Et de par les différentes crises qu'on a pu avoir ces dernières années, la gentrification sur les grosses agglomérations, les prix qui sont de plus en plus élevés.
Les confinements ont joué aussi ?
Alors, les confinements ont joué plutôt la défaveur des bailleurs, puisque les colocataires ne souhaitaient pas arriver dans une nouvelle colocation avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas forcément d'avant. Mais de façon générale, par contre, oui, le marché évolue. Et effectivement, maintenant, on n'est plus seulement sur des profils étudiants ou jeunes actifs. On a des personnes dans le cadre de séparation qui ont besoin d'un temps de réadaptation pour se retourner et repartir un peu de l'avant sur un nouveau chapitre de leur vie. On a des retraités, on a des familles monoparentales. Vraiment, l'évolution des prix des loyers loyers sur les grosses agglomérations jouent énormément en faveur de la vie en colocation.
Merci beaucoup Élodie Setruc d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir fait découvrir cette initiative, votre plateforme Coloc & You qui simplifie la colocation pour tout le monde. On vous souhaite beaucoup de succès et à très bientôt.
Merci
sur Europe 1.
Merci beaucoup, à bientôt, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Dans votre prochaine demi-heure, Margot Barallon va nous parler d'une série hilarante. C'est la prescription culture du lundi.
Et puis votre interview actuelle à 5h40, Omblin, vous recevez ce matin
le biologiste Romain Garouste. Nous serons dans le Var, où les flammes ont ravagé plus de 7000 hectares de forêt dans le massif des Morts. Nous verrons avec lui la difficulté pour la faune et la flore de renaître après la violence d'un tel incendie.
5h29, merci d'écouter Europe 1 de si bon matin. Quel temps pour ce lundi? Eh bien, on voit ça avec vous, Anissa Haddadi. Rebonjour Anissa.
Rebonjour Julien.
L'été se poursuit dans la moitié sud.
Oui, il y a des chances. Si vous êtes en vacances ou que vous partez travailler ce matin au sud de la Loire, c'est vrai que la semaine commence bien pour vous, sous le soleil, avec au bord de l'Atlantique, en Auvergne, en Rhône-Alpes, dans le sud-est et en Corse, un ciel bleu azur. Attention tout de même, Omblin en parlait à l'instant, en Provence et dans le Roussillon. Le Mistral et la Tramontane soufflent encore fort aujourd'hui, jusqu'à 70 km. Donc attention au risque d'incendie. Le long des Pyrénées, nous avons une petite grisaille ce matin qui va se dissiper au fil des heures. Et puis sur la moitié nord, en fait, on va avoir une team débardeur ce matin et une team t-shirt avec gilet.
Ah oui,
voilà. Donc
choisissez.
Au nord de la Loire, voilà. Et bien pour vous, ça sera t-shirt avec petite laine, puisque le temps sera gris sur les Ardennes, l'Alsace, la région parisienne, le nord. Un ciel chargé avec des averses. Le ciel va se dégager dans l'après-midi, mais les températures sont fraîches. Comptez 9 degrés à Montluçon, 11 à Poitiers, 15 à Bordeaux, 16 pour Paris ce matin, 20 degrés à Marseille et jusqu'à 21 degrés à Nice et Perpignan.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
À tout à l'heure.
Tout de suite votre journal, il est 5h30 sur Europe 1.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le football français dans la tourmente et des images qui font déjà le tour des réseaux sociaux. Le match de Ligue 1 entre Nice et Marseille définitivement arrêté hier soir après des incidents et l'envahissement du terrain. Situation toujours très critique en Outre-mer face à la poussée du variant Delta. La Guadeloupe, la Polynésie sont particulièrement touchés. À Tahiti, les soignants contraints de pratiquer une médecine de guerre face à l'afflux des patients. Dans ce journal, l'espoir du président Joe Biden de voir le dernier soldat américain quitter l'Afghanistan le 31 août. Pendant ce temps, les talibans annoncent lancer une offensive contre la vallée du Panchir. À l'aéroport de Kaboul, les évacuations se poursuivent malgré la cohue et la panique. Et au milieu de cette tragédie, une note d'espoir. Une ressortissante afghane sur le point d'accoucher a réussi à être évacuée par les Américains. Son bébé est né dans l'avion. Et puis, plus de 40 millions de Français sont entièrement vaccinés contre le Covid. Nous verrons comment la France est parvenue à combler son retard sur les autres pays. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien. Ils disaient leur impatience de retourner au stade et de tourner la page Covid. Pas sûr que les supporters niçois puissent fréquenter de sitôt l'Alliance à Riviera. Non contents d'avoir envahi la pelouse, ils ont provoqué un début de bagarre générale hier soir à l'occasion du match entre Nice et Marseille. La rencontre a d'abord été interrompue avant d'être définitivement arrêtée, Jean-François Pérez.
Oui, c'est à la 74e minute que ce match déjà tendu a basculé. Dimitri Payet s'apprête à tirer un corner. Il est atteint en pleine tête par une bouteille lancée des tribunes. Il s'écroule avant de se relever et de retourner la bouteille à l'envoyeur avec véhémence. La suite, pathétique, ce sont des bousculades, bagarres, envahissements de terrain. Il est 22h20, le match est suspendu. Peu avant minuit, on apprend qu'il ne reprendra pas. Les Marseillais refusent de revenir sur la pelouse. Quatre d'entre eux ont été blessés dans les échauffourées. La colère du président de l'OM, Pablo Longoria.
Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. L'arbitre était avec nous. Il nous a confirmé que la sécurité n'était pas garantie et sa décision c'était d'arrêter les matchs. Et la Ligue avait décidé pour, en question d'ordre public, de faire reprendre les matchs. C'est pas acceptable pour nous.
L'OM forfait donc perd ce match sur tapis vert 3-0, mais l'affaire ne fait que débuter. L'OM n'en restera pas là. La bataille juridique s'annonce longue et indécise, les sanctions lourdes. Le président niçois Jean-Pierre River, lui, n'en démord pas. Si cette soirée a dégénéré, affirme-t-il de façon assez démagogique, c'est avant tout la faute des Marseillais. Une chose est sûre, quelle que soit l'issue de cet épisode consternant, c'est la honte qui l'a emporté.
Et en attendant les recours juridiques, cette victoire permet aux Niçois de s'installer provisoirement à la 3e place du classement.
La situation reste critique en Outre-mer. Sur le front de la lutte contre le variant Delta, les cas de contamination s'envolent et l'épidémie semble désormais hors de contrôle.
Et c'est notamment le cas en Polynésie où le taux d'incidence frôle les 3000 cas pour 100 000 habitants. Le virus continue son travail de sape et les hôpitaux sont littéralement submergés. Les autorités polynésiennes ont décidé d'employer la manière forte et de décréter le couvre-feu et le confinement. Reportage sur place, Charlie René.
Après le couvre-feu, c'est le confinement total qui a été décrété dans les principales îles de Polynésie. Ce lundi, seulement 10 jours après la rentrée, toutes les écoles ont été fermées. Les chiffres ne laissaient guère le choix. Plus de 10 décès par jour, soit l'équivalent en proportion de 2500 morts quotidiens en métropole. Parmi eux, 98% ne seraient pas entièrement vaccinés, raison pour laquelle les élus locaux se sont réunis en urgence vendredi. Ils ont voté un texte obligeant les professionnels de santé, de l'éducation, une partie de l'administration et même les personnes suivies pour longue maladie à recevoir le vaccin. Un texte nécessaire, estime le président du pays, Édouard Fritsch.
Je sais que ce texte sera contesté par certains, mais je vais vous dire, notre situation sanitaire aujourd'hui est insupportable, elle est insoutenable pour nos personnels soignants et c'est même une situation indigne pour nos malades et nos familles.
Le message a visiblement été entendu, plus de 20 000 injections la semaine passée, un record, mais à l'hôpital de Tahiti, c'est surtout de Paris qu'on attend un sursaut. L'État n'a promis que 10 nouveaux soignants de la réserve sanitaire en renfort de la Polynésie, contre 300 pour les Antilles.
Un reportage Charlie René, journaliste pour Radio 1 basé à Papeete et partenaire d'Europe 1.
La crise sanitaire qui touche également la Guadeloupe, le virus frappe d'autant plus fort que la part de la population vaccinée y est faible.
Un peu moins de 24% des habitants sont totalement couverts par la vaccination. Les malades se comptent par dizaines, les décès aussi, les morgues du CHU de l'île débordent. Il a même fallu installer 2 conteneurs réfrigérés pour y abriter les morts.
En Haïti, le bilan du séisme s'est encore alourdi. Les autorités dénombrent un peu plus de 2200 tués et plus de 12 000 blessés. 8 jours après la catastrophe, les chances de retrouver des survivants s'affaiblissent au fur et à mesure que les heures passent.
Et aux États-Unis, sa prise de parole était très attendue alors que les États-Unis tentent toujours de s'extirper du piège afghan. Joe Biden espère que le dernier soldat américain aura quitté l'Afghanistan au soir du 31 août.
Nous avons évacué presque 28 000 personnes depuis le 14 août. Au total, depuis le début du mois de juillet, plus de 33 000 personnes ont été exfiltrées. Et en 24 heures ce week-end, 23 avions de l'armée américaine se sont envolés depuis Kaboul, avec à leur bord 3 900 passagers. Et en tout, en moins de 36 heures, on a fait évacuer près de 11 000 personnes. C'est une opération incroyable. Nous espérons que nous ne devrons pas prolonger notre présence sur place au-delà du 31 août, mais il y aura des discussions avec l'armée, je pense.
Paris qui continue également de rapatrier ses ressortissants ainsi que certains Afghans de Kaboul qui ont collaboré avec l'armée. 250 d'entre eux sont arrivés hier soir à Roissy. 150 autres étaient attendus cette nuit selon l'état-major français.
Et ceux qui restent sur place se cachent ou décident de partir dans la dernière zone qui échappe au contrôle des talibans. La vallée du Panjshir, fief de la résistance emmenée par le fils du commandant Massoud. Les talibans annoncent le lancement d'une opération militaire d'envergure pour en prendre le contrôle.
On a beaucoup critiqué les ratés et les cafouillages de la campagne de vaccination contre le Covid en France, mais cela appartient désormais au passé.
Près de 40 millions de personnes sont totalement vaccinées aujourd'hui dans notre pays. Cela représente 70% de la population. En 8 mois, la France a refait son retard au point de dépasser des pays longtemps cités en exemple comme Israël ou les États-Unis. Comment expliquer un tel rebond ? Élément de réponse, Nicolas Feldman.
Allez, on y va, vous êtes prête ?
C'était il y a 8 mois, Morissette, 78 ans, devient la première Française vaccinée. Nous sommes le 27 décembre, le gouvernement lance alors sa campagne de vaccination. Les débuts sont poussifs, d'abord réservés aux plus fragiles, puis à certaines professions ou catégories d'âge. Le vaccin ne s'ouvre que 5 mois plus tard, à la mi-mai, à tous les Français de plus de 18 ans. Dans les vaccinodromes, chez les professionnels de santé, la France comble alors une partie de son retard. Mais le vrai sursaut, Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, le situe cet été.
L'étape clé qui a lancé la dynamique, c'est le lundi 12 juillet où l'annonce du pass sanitaire et de son obligation pour pouvoir accéder aux lieux de vacances, aux bars, aux restaurants, a déclenché un grand mouvement de vaccination qu'on n'a vu dans aucun autre pays, ce qui nous a permis de rattraper potentiellement le retard que nous avions acquis au cours de ces derniers mois.
Avec près de 60% de sa population totalement vaccinée, la France est aujourd'hui le 12e pays le plus avancé, derrière le Qatar, le Portugal ou Singapour, mais devant d'autres nations pourtant pionnières comme les États-Unis ou Israël. Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre les 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin août. 3 millions de personnes restent donc à convaincre d'ici la semaine prochaine.
Nicolas Feldman, musulmanes. Et on rappelle, hein, Julien, que si 70% de la population est entièrement vaccinée, il reste des zones, des régions où la vaccination est très en retard. On pense notamment aux territoires d'outre-mer où l'on recense par endroits comme en Guadeloupe moins de 30% de personnes totalement couvertes.
Une note d'espoir dans ce journal, elle prend la forme d'un carnet de naissance.
Et quand on sait le sort promis aux femmes afghanes, on ne pouvait pas ne pas vous raconter cette histoire qui tient presque du miracle. Une afghane enceinte a réussi à fuir le régime taliban. Elle a été évacuée par les Américains et a mis au monde son bébé dans l'avion. Laura Taouchanoff.
À Kaboul, une jeune femme enceinte réussit à prendre place à bord d'un avion américain pour fuir les talibans. Direction Ramstein en Allemagne, mais en plein vol, cette Afghane commence à ressentir des contractions, des complications même. Le commandant décide alors de descendre en altitude pour augmenter la pression dans l'appareil, ce qui parvient à stabiliser la mère et à lui sauver la vie. Quelques minutes après l'atterrissage sur la base militaire à Ramstein, des soldats américains sont venus lui porter secours et l'aider à accoucher de sa fille dans l'avion toujours, avant qu'elle ne soit évacuée sur une civière vers un hôpital proche. C'est une histoire qui se termine bien. La mère et l'enfant sont sains et saufs et après quelques jours d'observation, elles devraient pouvoir repartir vers les États-Unis.
Laura Taouchanoff. Elles étaient 5 jusqu'à présent. Simone Veil était la dernière femme en date. Elles seront désormais 6. Josephine Baker va entrer au Panthéon.
La cérémonie est prévue le 30 novembre. Artiste, mais aussi résistante et militante antiraciste, la chanteuse franco-américaine va devenir la première femme noire à rejoindre le mausolée dédié aux personnalités ayant marqué l'histoire.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Rebonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est dans la discipline du steeplechase à Clairefontaine que va se courir ce Quintet. Et parmi les 17 partants, j'ai choisi comme favori le numéro 2, Donne le Change, puisqu'il vient de s'imposer de peu, mais avec la manière sur ce parcours de steeple et cet adepte de la course en tête, une tactique adéquate sur ce type de tracé, me paraît donc capable ici de doubler la mise. On lui opposera les numéros 1 Diva des Obos et 15 Fury d'Ainé, respectivement première et quatrième d'un quintet similaire sur cette piste le 5 juillet et qui n'ont qu'à répéter cette performance pour conclure à nouveau dans les 5 premiers. Ensuite, méfiez-vous de Poly Nuit, le numéro 9, deuxième de cette même épreuve l'an dernier, avec Fans d'Apple, le numéro 6, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec, son jockey s'étant trompé de parcours. Enfin, les numéros 5, Mac Groharty, 4 Footballisto et 16 Fénix San Marco compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, As, 15, 9, 6, 5, 4 et 16.
Et tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger, à demain. Vous restez avec nous dans un instant, mon interview actuelle avec le biologiste Romain Garouste. Après l'incendie dans le massif des Morts dans le Var, des feux ce matin qui ne sont toujours pas éteints. Tout de suite sur Europe 1.
Depuis maintenant 5 saisons sur Europe 1, vous suivez et vous téléchargez mes histoires.
Europe 1, on de la traconte.
Cet après-midi, on de la traconte reprend la route pour une 6e saison. Et nouveauté cette année, on de la traconte s'enrichit d'une 2e heure où je vous raconte à travers les archives et les sons d'Europe 1 toute une année. Et nous commencerons par l'année 1974.
J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement.
On de la traconte, c'est maintenant de 14h à 16h sur Europe 1.
Alors à tout à l'heure pour une nouvelle saison d'On de la traconte.
Vous ne serez pas déçus.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Et à 5h41, c'est votre interview, Omblin. On prend la direction du Var, oui. Au cœur du massif des Morts, où les pompiers sont toujours mobilisés sur l'incendie qui, depuis une semaine, a fait malheureusement 2 victimes et a dévasté plus de 7000 hectares de forêt. Le feu est fixé, mais toujours pas éteint. Alors comment la nature peut-elle renaître sur ses cendres? Vous en parlez, Omblin, avec Romain Garouste, chercheur en écologie et évolution des insectes à l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité, affilié au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Bonjour Romain Garouste.
Bonjour.
Dans votre tribune publiée dans Le Monde, vous dites que les écosystèmes méditerranéens sont adaptés au feu. Est-ce vraiment toujours le cas, surtout depuis cet été? Et vous l'avez évoqué, le feu en 2003.
Oui, effectivement, c'est une des caractéristiques des milieux méditerranéens. C'est effectivement une sorte de sélection de la végétation et du comportement même des animaux et de la faune qui s'adaptent à des feux, mais qui sont des feux d'abord d'intensité moindre, de fréquence moindre aussi, alors que là nous avons des feux qui sont assez récurrents, tous les 15-20 ans, c'est relativement court pour que le milieu ait le temps de se régénérer et également pour que la faune ait vraiment le temps de venir repeupler ces milieux tels qu'ils pourraient être s'il n'y avait pas de feu, vous voyez. Donc c'est vraiment, en fait, un potentiel qui ne peut s'exprimer.
Ah oui, ce sont des pins, des chênes très anciens partis en flammes, hein, des tortues harmanes qui sont d'ailleurs les seuls spécimens terrestres à vivre en France. On a vu des images absolument catastrophiques, des oiseaux, des insectes perdus. Peut-on espérer retrouver un jour ce paysage unique et sa faune ?
Par l'ampleur de ces feux, on va avoir une modification de ces écosystèmes et donc des paysages. Heureusement, d'après un premier bilan, nous avons un feu qui est quand même passé relativement rapidement, malheureusement qui est repassé sur certaines zones lors du changement de vent, ce qui fait qu'on va avoir une sorte de mosaïque avec des endroits qui sont extrêmement touchés, des endroits qui le sont moins. On n'est pas encore à l'heure du bilan parce qu'on ne peut pas aller partout. Et en fait, on est sous la dépendance des pompiers qui eux-mêmes ont les yeux rivés à la météo. Et là, le vent s'est relevé et on nous demande en permanence d'être non seulement vigilants, mais de quitter quelquefois le terrain pour arrêter nos opérations de suivi et de sauvegarde de ces tortues, notamment. Hier, on en a trouvé une cinquantaine dont plus de la moitié était morte.
On parle des animaux victimes. C'est-à-dire mort après ces feux, mais il en existe aussi qu'il faut nourrir et qu'il faut retrouver. Comment ça se passe dans ces cas-là, puisqu'ils ne sont pas tous décimés ?
Alors oui, effectivement, vous avez raison, il y a les effets directs du feu, bien entendu, il y a les effets indirects, c'est-à-dire que l'écosystème est tellement touché et modifié que les animaux survivants vont avoir vraiment beaucoup de mal à survivre, donc après l'épisode lui-même du feu. Et donc, malgré tout, grâce à cette adaptation de cette faune, eh bien, on va prélever les animaux qui sont vraiment très blessés, en danger de mort. Par contre, on va, ce qu'on a fait pour les tortues, c'est qu'on va les hydrater et on va les laisser sur le terrain parce qu'elles ont l'habitude d'attendre, en fait, le retour des pluies qui va arriver, on espère, dans quelques semaines et qui vont se mettre un peu en stase pour attendre des meilleurs moments.
Vous êtes spécialiste des insectes. Quelles sont spécifiquement les conséquences à leur niveau ?
Alors les insectes, vous en avez plusieurs catégories. Vous avez ceux qui vivent aux dépens de la végétation, sur la végétation, et puis vous avez ceux qui vivent à l'intérieur de la végétation, notamment les troncs d'arbres, et puis dans le sol. Donc il se trouve que par la chaleur et la dessiccation, il y a une partie de la faune du sol qui va se mettre un petit peu en profondeur, et celle-ci est quand même relativement préservée par rapport à, bien sûr, tout ce qui se trouvait sur la végétation, y compris les insectes volants qui vont, contrairement à ce qu'on peut croire, les insectes sont relativement sensibles à la chaleur. Bien sûr, quand je parle de chaleur, c'est au-dessus de 40 ou 50 degrés. Et là, on atteint des chaleurs de plusieurs centaines de degrés, jusqu'à 800 degrés. Et donc là, même sans feu, rien que par la chaleur, ces animaux meurent simplement par contact avec de l'air chaud.
Est-ce que cet incendie varroa par sa violence, hein, favorisée par la sécheresse, les conditions météo, hein, vous l'avez évoqué, est comparable aux autres feux que connaît le bassin méditerranéen et d'autres endroits de la planète, hein, la Californie, la Russie aussi, en bref. L'ennemi commun, c'est quoi ? C'est le réchauffement climatique, selon vous ?
Oui, c'est le réchauffement climatique qui ne permet plus à ces milieux d'avoir la capacité justement de se régénérer et puis de, je dirais, la capacité naturelle d'absorber ces feux. C'est-à-dire que quand vous avez même des forêts d'un seul tenant, vous avez toujours des hétérogénéités, énéités de milieux, vous avez des milieux plus humides, etc., qui vont stopper le feu et qui font que les feux ont rarement été de si grande ampleur, à quelques exceptions près. Mais malheureusement, ce réchauffement climatique, il a commencé depuis quand même un certain temps. Et je dirais que depuis quand même une trentaine d'années, on a ce type de feu, ce qu'on appelle les méga-feux, qui, par la violence de leur progression, par l'ampleur donc des écosystèmes, enfin de la taille en fait des écosystèmes qu'ils détruisent, sont qualifiés de méga-feux et sont du même ordre de ceux que l'on trouve maintenant, hélas, un peu partout dans le monde, hein, et notamment dans les milieux méditerranéens ou tropicaux.
Merci beaucoup, Romain Garouste, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes chercheur en écologie et évolution des insectes à l'Institut de systématique évolution biodiversité affilié au Muséum national d'histoire naturelle. Merci.
Je vous remercie.
5h47 sur Europe 1, très bon réveil à tous et je suis ravi et Omblin et moi nous sommes ravis de vous accompagner chaque matin cette saison sur Europe 1. On va partir maintenant, on va parler maintenant de quelque chose qui nous a beaucoup manqué pendant les confinements. Est-ce que vous voyez de quoi
pendant
je parle?
Pendant les confinements, alors on va parler circulation. Qu'est-ce qui nous a manqué?
Non, vous êtes bizarre Omblin. Non, je parle de la culture et bien on va la mettre à l'honneur chaque matin dans cette matinale.
Mais oui, cinéma, littérature, musique évidemment, c'est la presse. Description culture d'Europe 1.
Et chaque lundi, c'est les séries avec Margot Barallon. Bonjour Margot.
Bonjour tout le monde.
Ce matin, vous avez déniché une série hilarante pour adoucir un peu la rentrée. C'est à voir sur la plateforme Apple TV+, et ça s'appelle Ted Lasso.
Oui, Ted Lasso, c'est le personnage principal de notre histoire, entraîneur de football de l'AFC Richmond, une équipe anglaise. Et au début de la série, il vient tout juste d'être recruté par la propriétaire du club, Rebecca Walton. Le seul petit problème, c'est que Ted Lasso arrive des États-Unis, où il entraînait bien des équipes de foot, mais de foot américain. Donc le football, le vrai, il n'y connaît absolument rien. Et ça se voit en conférence de presse.
Vous pourriez remplir deux internets avec tout ce que j'ignore sur le football. Mais je vais vous dire ce que je sais. Je sais que cet AFC Richmond, comme toutes les autres équipes que j'ai entraînées, se donnera à fond pendant les quatre quarts-temps.
Mi-temps.
Pardon ?
C'est deux mi-temps.
Ah oui, désolé, mi-temps, oui.
Vous êtes un Américain qui n'a jamais mis les pieds en Angleterre, dont le succès sportif n'existe qu'au niveau amateur, avec une équipe de seconde zone, et qui va maintenant entraîner une équipe de football de Ligue 1, même s'il est plutôt évident que votre connaissance du jeu est très limitée.
Vous avez une question là-dessus, Trent ?
Est-ce que c'est une putain de blague ?
Alors vous allez sûrement vous demander, pourquoi recruter quelqu'un d'aussi incompétent ? Eh bien pour comprendre, il faut savoir que Rebecca Walton, la propriétaire, vient de se faire larguer par son mari. Mari qui l'a trompée, humiliée, et elle cherche donc tout simplement à se venger.
Le coach Lasso est celui qu'il nous faut.
Oh, c'est un véritable branleur.
Pardon ?
J'espère qu'il va se planter en beauté. Vous voyez, mon ex-mari n'a aimé qu'une seule chose dans toute sa vie, ce club. Et Ted Lasso va me permettre de le réduire en cendres.
Sauf que ça, eh bien Ted Lasso ne le sait pas. Lui arrive bien décidé à sauver ce club. Évidemment, ça ne va pas être facile, mais ce sera surtout très très drôle. Ted Lasso, ce sont de petits épisodes d'une trentaine de minutes, très bien écrits, les dialogues fusent, les blagues avec, notamment sur le petit choc des civilisations qui attend un Américain fraîchement débarqué en Angleterre.
Comment prenez-vous votre thé ?
D'habitude, je le prends pour le rapporter au bar, puisque c'est une malheureuse erreur du serveur, mais je suis en Angleterre.
Alors ?
Oui, j'ai toujours cru que le thé n'était rien d'autre que de l'eau chaude marron. Eh bien, vous savez quoi ? J'avais raison.
Donc Margot, si on comprend bien, ce n'est pas une série à réserver aux amateurs de foot.
Ah, pas du tout. Hein. Déjà, si vous n'y connaissez rien, souvenez-vous que Ted Lasso non plus, donc ce n'est pas très grave. Il y a un joueur dans la série qui n'arrête pas de répéter que le foot, c'est la vie. Eh bien, c'est exactement ça. La série parle de la vie avant de parler de foot. Le sens du collectif, l'accomplissement de soi. Elle joue aussi sur les clichés. Celui de la femme de footballeur qui est loin d'être bête. Sur ceux de la masculinité aussi que la série vient titiller au fil des scènes de vestiaire. Et finalement, l'exploit de Ted Lasso, c'est sûrement de prendre un héros foncièrement sympathique sans jamais tomber dans la niaiserie. Au contraire, c'est très fin, ça tape toujours juste et c'est donc à voir sur Apple TV+. La première saison est intégralement disponible et la deuxième est en cours de diffusion avec un nouvel épisode tous les vendredis.
Voilà cette série Ted Lasso qui nous fait bien envie. Merci beaucoup Margot Barallon pour cette prescription culture. Demain matin, on parlera littérature avec Nicolas Caro.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
C'est votre matinale sur Europe 1 jusqu'à 9h. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et à 5h51 et 37 secondes, très précisément, Élise Dangean est de retour dans ce studio pour le journal permanent. À la une ce matin, Élise.
70% de la population française a reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19. À la rentrée, une campagne sera mise en place dans les collèges et lycées pour les jeunes de plus de 12 ans qui souhaiteraient se faire vacciner. Je ne vais pas vous épargner les mots du généraliste Jérôme Marty qui annonce porter plainte au nom de son syndicat de médecins contre Nicolas Dupont-Aignan. Dans un tweet, le président du parti Debout la France a défendu le professeur Didier Raoult en opposition aux autres médecins qui ont, écrit-il, des milliers de morts sur la conscience. Les troupes américaines ne quitteront peut-être pas l'Afghanistan d'ici au 31 août comme prévu. Des discussions sont en cours, a dit le président Joe Biden qui préférerait toutefois ne pas en arriver là. Enfin, Josephine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre prochain. Résistante et militante antiraciste, l'artiste français
franco-américaine sera la 6e femme et surtout la première femme noire à y reposer.
Merci Élise Dangean et on va évidemment développer certains de ces titres dans le journal de 6h avec Roman Hockey.
Europe Matin.
C'est en France. Voilà, c'est notre nouveau rendez-vous, l'un de nos nouveaux rendez-vous, notre grande boucle de l'actu en feuillette chaque matin. Hein, Julien, tous vos quotidiens régionaux et on sélectionne une histoire, un reportage marquant. Et c'est l'un des journalistes qui l'a écrit, qui nous le raconte.
Bonjour Denis Caro.
Bonjour Julien.
Vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, où l'on peut lire ce matin un dossier sur les vacances des milliardaires sur la Côte d'Azur. Et le premier constat, c'est que cet été, les plus fortunés sont revenus.
Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis le début de l'été, les yachts géants, les voitures de luxe et les jets privés font à nouveau partie du paysage de la Côte d'Azur. À Cannes, Monaco, Nice ou Saint-Jean-Cap-Ferrat, la clientèle des milliardaires qui n'était pas venue l'an passé pour cause de crise sanitaire a repris ses habitudes, un peu comme avant. Des Américains, des Anglais, des Moyen-Orientaux, quelques Russes aussi. Les étrangers fortunés sont bel et bien de retour depuis le mois de juillet. Certains ont d'ailleurs anticipé leur séjour pour profiter du Festival de Cannes qui, pour la première fois cette année, avait lieu en plein été. Alors, ce retour des milliardaires, en tout cas de la clientèle fortunée, c'est une vraie aubaine pour le commerce local et l'industrie touristique particulièrement éprouvée par la crise. Et tous les professionnels qu'on a rencontrés s'en félicitent. Pour beaucoup, le chiffre d'affaires est comparable à celui de 2019, un été qui avait été exceptionnel sur la Côte d'Azur.
Alors, on va y revenir dans un instant sur l'aspect économique de ce retour des milliardaires. Vous avez mentionné les Russes un peu plus tôt, qui eux ont une particularité comparée aux Américains ou aux Anglais ou aux milliardaires du Moyen-Orient, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas venir directement en France.
Oui, puisque le vaccin Sputnik n'est pas reconnu par les autorités françaises, alors les quelques Russes qui sont en vacances sur la Côte d'Azur se débrouillent et notamment, et c'est ce que nous explique un de nos interlocuteurs, certains passent par l'Italie, ils arrivent par jet privé en Italie et ils sont récupérés du côté de Gênes et ils viennent sur la Côte d'Azur à partir de Gênes.
Ça a été une aubaine finalement ce décalage du Festival de Cannes de mai à juillet?
Oui, ça a véritablement lancé la saison. Comme je le disais, c'était une première. Personne ne savait vraiment si ça aurait un effet. Le festival a été plus calme que d'habitude pour cause là aussi de crise sanitaire. Mais finalement, la clientèle est venue et ça a vraiment amorcé la saison. Et on a vu un peu de people un petit peu partout, que ce soit à Cannes, à Nice, à Saint-Tropez, et des gens qui sont restés. Et certains restent longtemps, ce que disent certains hôteliers, notamment le directeur du Martinez, c'est que certains restent un mois et demi, deux mois de vacances et en profitent au maximum. Et ça, tous nos interlocuteurs le confirment. Les millionnaires et les milliardaires veulent en profiter à fond.
Oui, parce qu'il n'y a pas que les yachts, les jets privés, tout ça, ce n'est pas juste pour le décor. Il y a vraiment une économie derrière qui en dépend.
Il y a toute une économie. Alors, vous avez les hôtels 5 étoiles, mais ce que nous racontent les hôteliers, c'est que les chauffeurs, eux, logent dans des 2 étoiles. Donc, ça fait tourner une autre partie de l'hôtellerie. Les commerces locaux fonctionnent aussi, que ce soit à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Cannes, à Beau-Soleil. C'est le fleuriste qui nous explique que cette clientèle adore fleurir les villas et les bateaux pour des factures qui peuvent atteindre jusqu'à 4000 euros. Même chose pour les cavistes, des commandes qui arrivent de temps en temps de 2 à 3 000 euros de champagne,
oui, c'est un autre monde,
de rosé. C'est un autre monde.
Celui du luxe et il se porte bien, les vacances des milliardaires sur la Côte d'Azur. Eh bien, c'est le dossier à lire aujourd'hui dans Nice Matin. Merci Denis Caro.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt sur Europe 1.
À très bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58 sur Europe 1, le programme de la prochaine demi-heure, Omblin.
Votre interview actuelle dans une dizaine de minutes. Vous recevez la virologue Christine Rousiou pour faire un état des lieux sur l'épidémie à l'heure de la rentrée. Et puis, je vais vous faire écouter ça. La musique rock, garage et punk revival de The Strokes, le premier album à 20 ans. Je vous en parle dans la partition.
Mais avant, à 5h59, c'est la météo avec vous, Anissa Haddadi, et l'ambiance sera plus fraîche aujourd'hui dans le Nord.
Oui, c'est vrai qu'après les violents orages et chutes de grêle qui ont touché le Grand Est hier soir, l'ambiance s'est bien rafraîchie. Alors la bonne nouvelle, si vous nous écoutez dans l'Est, c'est que tous les orages se sont échappés vers l'Allemagne et la Belgique. Vous êtes tranquille. Mais attention, de la Picardie jusqu'à l'Alsace, en passant par la région parisienne et les Ardennes, le temps reste quand même très gris, un ciel couvert, avec au nord de la Seine encore quelques petites averses dans la journée. Attention, dans le centre-est et la vallée de la Garonne ce matin, les brouillards sont nombreux. Ils pourraient vous gêner si vous prenez la route. Sur la moitié sud, là, rien à signaler. Le ciel est bien dégagé, l'été se poursuit et le soleil brille aujourd'hui. Les températures, nous avons, comme dans le ciel, un vrai contraste entre le nord et le sud. 11 degrés à Vannes ce matin, 12 à Nantes, 14 à Nancy, 16 à Paris, 17 à Lyon, 20 degrés à Nîmes et 21 pour Toulon. Cet après-midi, nous aurons 19 à 32 degrés du nord au sud, 24 pour Paris, 26 à Bordeaux. Et attention, dans le sud, Mistral et Tramontane se lèvent, 70 km/h à prévoir aujourd'hui encore.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
La priorisation, on y est contraint, ce n'est un plaisir pour personne et ça fait partie de la médecine de catastrophe que nous sommes actuellement obligés de pratiquer.
En Guadeloupe, les hôpitaux obligés de trier les malades face à l'afflux de patients malades du Covid. Sur l'île, le nombre de décès explose, nous dira notre correspondant dès le début de ce journal. Autre conséquence de la crise sanitaire, la pénurie de semi-conducteurs, ces puces électroniques indispensables désormais à nos voitures. Des lignes de production sont à l'arrêt chez plusieurs constructeur. Un nouvel avion s'est posé cette nuit à Paris. À bord, 150 Afghans évacués de Kaboul aux mains des talibans. En France, la diaspora afghane s'organise pour rapatrier leur famille.
Europe 1.
Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Des conteneurs frigorifiques installés en urgence sur le parking du CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, débordés par les malades du Covid. Le taux d'incidence s'envole à plus de 2100 cas pour 100 000 habitants.
Une flambée liée à la faible couverture vaccinale sur l'île. Seuls 25% des adultes a reçu ces deux doses. C'est presque trois fois moins qu'en métropole.
Amandine Asensio, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Guadeloupe. L'ampleur de la crise sanitaire complique, on imagine, la gestion des funérailles.
Bien évidemment, c'est un casse-tête pour les maires des communes qui doivent gérer l'encombrement des cimetières, comme l'explique Jocelyn Sapotille. Il est le maire de la commune de Lamantin et le président de l'association des maires de Guadeloupe.
On arrive à faire deux enterrements par jour. On prête aux familles des travaux de transition jusqu'à ce qu'il y ait saturation. Ça joue beaucoup sur le moral. On n'arrête pas de rendre des condoléances aux familles. C'est le père, la mère, c'est le frère, la sœur. C'est comme ça, quoi. Ce que la Guadeloupe vit là, c'est un drame qu'on n'a jamais connu.
Autre signe de l'explosion du nombre de décès, les avis d'obsèques, qu'ici, aux Antilles, on écoute à la radio. Et alors qu'en général, l'émission dure une trentaine de minutes, depuis quelques jours, elle peut atteindre jusqu'à 1h30.
Amandine Asensio, correspondante d'Europe 1 en Guadeloupe.
La pénurie mondiale de semi-conducteurs avait déjà perturbé les départs en vacances. Certains d'entre vous n'avaient pas reçu leur véhicule neuf à temps. Et bien ce problème d'approvisionnement va aussi perturber la rentrée.
Et oui, ce devait être un jour de reprise. Aujourd'hui, à l'usine Toyota d'Onin dans le Nord, les 5000 salariés ne reprendront finalement le travail que dans deux semaines. Des lignes de production à l'arrêt également chez Stellantis, à Rennes et à Sochaux.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Cette crise n'est pas nouvelle, hein, mais ce qui peut surprendre, c'est que les conséquences soient aussi longues. Comment peut-on l'expliquer ?
Alors, en cette rentrée, c'est un phénomène bien précis qui a entraîné cette succession d'annonces très récentes de baisse de production. Toyota, Stellantis, vous l'avez dit, mais aussi Ford ou BMW. Pour la plupart d'entre eux, cela vient de la fermeture d'une usine en Malaisie. Et dans ce marché très concentré des semi-conducteurs, l'absence d'un fournisseur dans une période où tout le secteur est à flux tendu, cela a des impacts directs, instantanés dans le monde entier. Dégradation de la situation sanitaire en Asie. Et voilà ce fabricant malaisien à l'arrêt, alors qu'il avait pourtant augmenté ses capacités de production pour répondre à une demande mondiale en forte croissance pour ses composants qui permettent de fabriquer des puces électroniques que l'on retrouve dans nos voitures, mais aussi nos téléphones ou consoles de jeux vidéo. Et selon Arnaud Aimé, spécialiste du secteur automobile au cabinet Sia Partners, le plus inquiétant, c'est que même les constructeurs les mieux préparés sont désormais impactés.
Toyota, par exemple, qui avait retenu du tsunami de 2011 la nécessité de constituer des stocks pour assurer une continuité d'activité, même quand les fournisseurs ont des usines soit fermées, soit détruites, eh bien, même un Toyota qui faisait des stocks depuis une dizaine d'années est confronté à la pénurie aujourd'hui parce que comme la crise est durable, eh bien à un moment les stocks de sécurité, disons, ils sont épuisés.
Et donc Aurélien, on a en France des salariés qui se retrouvent à nouveau au chômage partiel et côté constructeur, c'est aussi un manque à gagner considérable Aurélien.
Oui, parce qu'après une année 2020 catastrophique, marquée par plusieurs confinements et un marché qui avait connu une baisse historique de plus de 25% en France, tous les constructeurs misaient sur le second semestre 2021 pour voir leurs ventes enfin repartir à la hausse. Sauf qu'avec cette pénurie qui dure, c'est tout l'inverse. 200 000 voitures en moins pour Renault, 400 000 rien qu'en septembre pour Toyota, le numéro 1 mondial du secteur, et 20% de réduction globale sur l'année envisagée pour le groupe Stellantis.
Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
6h05 sur Europe 1, la suite du journal de Roman Hockey. On en vient à cet été meurtrier à Marseille avec de très probables règlements de compte en série.
4 jours après l'assassinat d'un adolescent de 14 ans, 3 hommes ont été tués ce week-end. Des règlements de compte qui ont fait près d'une dizaine de victimes depuis le mois de juin. Un bilan qui ne surprend pas. Rudy Mana, le secrétaire du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône, accuse un manque d'effectifs.
Vous savez, Marseille, c'est une ville tellement compliquée et on a perdu tellement d'effectifs ces 10 dernières années que bien évidemment, si on a encore 100 ou 200 arrivés, nous les prendrons avec grand plaisir. Il est vrai que souvent, on ne compte pas nos heures. Parfois, on a un fond de découragement qui commence à nous envahir. Mais vous savez, si on commence à se décourager là-dessus, franchement, au bout de 6 mois dans la police, on ne fait plus rien. Quand on a des affaires en cours comme celle-ci, croyez bien qu'on met tout ce qu'on a dans le ventre, et tant qu'on n'a pas la fatigue qui nous épuise, eh bien on travaille d'arrache-pied pour essayer de trouver des auteurs à ces crimes odieux. Mais aujourd'hui, on fait avec les moyens que l'on a et on se concentre sur la tâche qui est la nôtre, c'est-à-dire interpeller les auteurs de ces horribles assassinats.
Le secrétaire du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône, joint par Laura Taouchanov pour Europe 1.
Dans l'actualité internationale, cette offensive lancée hier par les talibans dans la vallée du Panjshir, une région du nord-est du pays, dernière zone de résistance en Afghanistan. Les talibans disent avoir envoyé 100 de combattants.
À Kaboul, l'aéroport reste plus que jamais la dernière porte de sortie pour quitter le pays. Un avion militaire français, le 7e depuis le début de la crise, s'est posé cette nuit à Paris avec 150 Afghans à bord.
Mais tous n'ont pas cette chance. Alors en France, la diaspora afghane se mobilise pour évacuer les autres familles toujours piégées dans le pays et parfois menacées de mort.
Notre reporter Yasmine Akatou a rencontré Nour, un Afghan installé en région parisienne. L'homme se bat pour faire rapatrier ses proches.
Il y a 6 ans, Nour a obtenu l'asile politique en France. Ce réalisateur espère que sa famille, bloquée à Kaboul, aura elle aussi cette chance. Alors depuis 5 jours, il passe ses journées et ses nuits à appeler le ministère des Affaires étrangères.
Et je vais appeler encore.
Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Nous vous invitons à renouveler votre appel d'ici quelques instants. À très bientôt.
Après 100 appels, au milieu de la nuit, quelqu'un décroche enfin.
À 5h du matin, ils ont répondu. J'ai donné un numéro de passeport pour 5 personnes. Ma mère, mon père, mon petit frère, ma petite soeur et son mari. Et j'ai demandé, ça prend combien de temps pour contacter ma famille? Il a dit, il n'a aucune idée. Pour l'instant, rien. Ils n'ont pas contacté encore ma famille.
Depuis son appartement, dans lequel il espère accueillir sa famille un jour, Nour se sent impuissant.
Ils ont déménagé la semaine dernière. Il y a des talibans qui arrivaient derrière leur maison. Ils ont frappé la porte. Ils étaient menacés. Il est caché. Voilà, il ne peut pas sortir, mais il est caché.
Ses parents sont fonctionnaires, sa sœur est journaliste. S'ils ne quittent pas l'Afghanistan rapidement, ils se feront tuer, c'est sûr, conclut Nour.
Le reportage de Yasmine Akatou pour Europe 1. Et puis à noter, ce sommet organisé demain entre les dirigeants des pays du G7, réunion virtuelle pour organiser un peu mieux les rapatriements et prévenir une crise humanitaire.
En France, dans le Var, un nouveau départ de feu a été maîtrisé par les pompiers hier en fin d'après-midi. Depuis une semaine, un gigantesque incendie ravage toujours le massif des Maures. Le feu est désormais fixé. C'est-à-dire que les flammes ne progressent plus, mais elles ne sont toujours pas éteintes, a précisé le préfet du département. Aux États-Unis, au moins 21 personnes sont mortes à cause d'inondations catastrophiques dans l'état du Tennessee au sud du pays. Une 20aine de personnes sont toujours portées disparues, dont plusieurs enfants.
Et pendant que l'Est se noie sous des pluies historiques, l'Ouest des États-Unis, la Californie, fait face à un énième épisode de sécheresse.
Benoît Clerc, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Los Angeles. Et là-bas, les autorités lancent même un projet à 8 milliards de dollars pour recycler les eaux usées et récupérer l'eau de pluie. Benoît, il faut dire que la crise de l'eau s'aggrave dans la région.
Oui, la sécheresse qui dure depuis plus de 2 ans en Californie n'est pas nouvelle, mais elle s'accélère. Déjà en 1995, les habitants de Los Angeles devaient remplir baignoires et baquets avant des coupures d'eau régulières dans la journée. Aujourd'hui, ce sont plus de 40 millions de personnes qui subissent plus concrètement encore cette crise de l'eau. Dans le nord de l'État, le barrage d'Oroville, le plus haut des États-Unis, qui alimente 27 millions de personnes, a vu baisser son niveau d'eau de plus de 50 mètres en un an. Les 6 turbines de l'usine hydroélectrique locale sont à l'arrêt depuis 15 jours. jour. Warren Brown est ingénieur sur place.
Normalement, chaque année, ici à Oroville, nous pouvions avoir assez d'eau de pluie pour remplir complètement le réservoir, et même s'il était à un faible niveau en début d'année. Mais maintenant, chaque année, nous avons de moins en moins de pluie.
Conséquence de l'arrêt provisoire de cette centrale, le pays doit faire appel aux énergies fossiles pour faire tourner les puissants climatiseurs californiens. Et la firme française Suez recycle chaque jour depuis 30 ans dans son usine de Santa Monica quelques 150 000 mètres cubes d'eau usée pour des usages non domestiques. En attendant que la situation s'améliore cet hiver, le gouverneur Newsom fait distribuer des seaux aux habitants afin qu'ils mesurent leur quantité d'eau consommée quotidiennement et des chronomètres pour prendre des douches plus courtes.
Les explications de Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 à Los Angeles.
C'était le journal de Romain Oquet. On passe maintenant au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et le journal des sports, c'est avec Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Ambline.
Et on commence évidemment avec un fiasco. Le match Nice-Marseille interrompu hier suite à un envahissement de terrain.
Oui, insupportable, titre le quotidien L'Équipe ce matin. Alors on joue la 74e minute du match hier soir à l'Allianz Riviera. Corner pour Marseille que s'apprête à tirer Dimitri Payet lorsqu'il reçoit une bouteille dans le dos, hein, pas la première de la soirée. Le meneur de jeu marseillais s'effondre avant de répliquer. Et là, c'est l'explosion. Hein. Les supporters niçois envahissent le terrain. Bagarre générale et interruption du match pendant une heure et demie. Finalement, et malgré le chaos, la préfecture annonce la reprise du match. Mais les joueurs de l'OM refusent de retourner sur le terrain. Écoutez les justifications du président marseillais, Pablo Longoria.
On a décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qu'ils ont été agressés avec une invasion du terrain. Et on a décidé de ne pas reprendre le match parce que la sécurité de nos joueurs, ce n'est pas garantie. C'est déjà la deuxième fois qu'on a vécu ça à Montpellier. On a décidé là-bas de continuer après toutes les décisions qui ont été prises. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous. Il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et à moi, que la sécurité, ce n'était pas garantie. Et sa décision, c'était d'arrêter le match.
Alors ce matin, les Marseillais ont match perdu, 3-0 sur tapis vert, mais ils ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer un recours devant la Ligue.
Un match qui va continuer de faire parler. Donc, dans les autres résultats de la journée, Martin.
Alors Lyon qui menait 3-1 contre Clermont a complètement craqué, un match nul 3-3 et pire début de saison pour les Gaunes depuis le début du 21e siècle. Angers qui continue de surfer sur son bon début de saison, un match nul à Bordeaux. Ou encore Rennes qui a définitivement lancé sa saison en gagnant le derby breton, victoire 1-0 contre Nantes. Au classement, le PSG est déjà en tête devant les deux belles surprises de ce début de saison. Angers donc et Clermont. Derrière, Troyes, Monaco et Strasbourg ferment la marche avec un seul point pris en 3 matchs.
Le reste de l'actualité sportive, Martin.
La fin d'une malédiction aux 24 heures du Mans. La voiture numéro 7, une Toyota pilotée par le trio Conway, Kobayashi et Lopez l'a emportée hier après plusieurs échecs successifs. Le tennisman Alexander Zverev qui continue son bel été après sa victoire aux Jeux de Tokyo. L'Allemand s'impose au Master 1000 de Cincinnati face au Russe Rublev. Enfin, un record pour l'équipe de France d'athlétisme junior. Elle repart des championnats du monde de Nairobi avec 8 médailles. C'est 2 de plus que son meilleur total jusque-là. De bon augure à 3 ans des Jeux de Paris alors que l'athlète française sort de JO compliqué à Tokyo.
Les championnats du monde d'athlétisme junior, on en reparle avec vous à 7h. Martin Lange avec un portrait de la nouvelle coqueluche française, Sacha Zoya. Merci beaucoup Martin. Restez avec nous dans un instant, cette question. Où en est la quatrième vague? Comment l'épidémie va-t-elle évoluer avec le retour des vacanciers et surtout la rentrée scolaire? On en parle dans une minute avec mon invité, la virologue Christophe Rozioux. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h14, bon réveil sur Europe 1. Votre matinale info se poursuit avec l'interview Actu. C'est la rentrée pour des millions de Français, rentrée sous très haute surveillance sanitaire. Où en est de cette quatrième vague? Pour en parler, Julien, vous recevez ce matin Christine Rozioux, professeure de virologie et membre de l'Académie de médecine.
Bonjour Christine Rozioux.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Situation catastrophique dans les Antilles et en Polynésie française. Taux d'incidence en métropole qui approche les 250 cas pour 100 000 habitants. C'est 6 fois plus qu'il y a un an à la même période. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle flambée des contaminations avec le retour des vacanciers?
Oui, en fait, on envisage le fait que le niveau d'infection est tel actuellement qu'il va y avoir des déplacements de population. Les populations vont s'implanter vers les villes, vers les lieux de travail, vers les entreprises. Et donc, on va avoir un déplacement des sites de contamination. D'autant, le risque est d'autant important qu'on n'a pas atteint un niveau de vaccination suffisant et que le risque avec le variant Delta donne des formes graves pour les non-vaccinés, en particulier les personnes qui ont des comorbidités. Donc là, la situation du fait du variant Delta et malgré le niveau de vaccination est vraiment préoccupante.
Et puis, il y a la rentrée scolaire dans 10 jours. Est-ce qu'elle vous inquiète, cette rentrée scolaire ?
Oui, elle m'inquiète parce que moi, je pense qu'il n'est pas question d'empêcher le présentiel. Je pense qu'il faut vraiment que et les universités, les lycées, les collèges et l'école puissent avoir lieu normalement, mais à condition qu'il y ait un protocole sanitaire strict avec une proposition large de vaccination. Tous les étudiants devraient être vaccinés, ça c'est une évidence. Les jeunes de 12-18 ans aussi, et donc la proposition de vaccination doit bien être élargie et s'implanter à l'école. Il va falloir envisager, que ce soit d'ailleurs adulte ou enfant, savoir que bon, on n'est pas sorti d'affaire. Il va falloir porter le masque, et oui, il va falloir porter le masque encore longtemps à l'école, et il va falloir aérer les classes, il va falloir éviter les sports en salle, et faire attention quoi, aux contacts, parce que dans les villes, on multiplie les contacts, y compris à l'extérieur.
Alors justement, Jean-Michel Blanquer a précisé hier dans le JDD le protocole sanitaire qui sera en vigueur dans les écoles, collèges et lycées. Vous l'avez dit, ce sera du 100% présentiel pour une rentrée la plus normale possible, dit le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que malgré tout, ça vous semble raisonnable, sachant que, par exemple, il n'y a toujours pas eu de généralisation des capteurs de CO2 dans les classes ?
Oui, moi, je ne suis pas totalement convaincue avec ces histoires de capteurs de CO2. Il faut vraiment aérer les classes régulièrement. Moi, mes petits-enfants, ils sont avec les doudounes et éventuellement l'hiver, mais les maîtresses ouvrent beaucoup les classes, y compris pendant la classe, pas uniquement pendant la récréation. Donc, je pense que ce qui compte surtout, c'est de bien dépister les cas et effectivement les isoler immédiatement. Donc du dépistage et de la vaccination. Il va falloir vraiment renforcer les tests antigéniques dans les écoles.
Alors on va revenir sur cet aspect dépistage. Concernant la vaccination, ça marche plutôt bien chez les ados. Plus de 55% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose. C'est encourageant.
C'est tout à fait encourageant. Et ils ont été intelligents, ont compris que pour préserver leurs vacances et avoir le droit de rencontrer les autres, le mieux c'était d'être vacciné. Et je pense que le bénéfice individuel et le bénéfice collectif, c'est quelque chose qu'ils comprennent bien. Ça fait plutôt plaisir et je pense que l'élargissement de cette vaccination va se faire assez facilement, d'autant qu'on les a en contact à l'école.
Alors là, on parle des 12-17 ans, oui. Mais il y a aussi la question de la vaccination des moins de 12 ans. Jean-Michel Blanquer a dit la semaine dernière, elle n'est pas d'actualité et pour cause, aucun vaccin n'a encore été approuvé pour cette classe d'âge. Est-ce qu'il y a urgence qu'on se penche sur cette question selon vous, Christine Rosiou ?
Il y a urgence, pas vraiment dans la mesure où les essais sont en cours, on va avoir des résultats et donc on ne peut pas aller plus vite que la musique, il faut attendre que les résultats de phase 3 de chez les petits soient disponibles.
Mais la question va se poser.
La question va se poser, oui, parce que ce n'est pas la peine de laisser circuler le virus. On a quand même la crainte d'autres variants pseudo-indiens ou dérivés indiens ou autres, Delta. Donc, il faut immuniser le plus largement possible la population. Et effectivement, protéger les petits, les pédiatres le réclament. Ils sont habitués à vacciner, ils sont habitués à les suivre. Je pense qu'on a une logistique qui est possible avec les petits, entre l'école et les pédiatres.
Mais ça va être difficile de convaincre une partie de la population qui est d'ores et déjà réticente à la vaccination pour les adultes.
Oui, finalement, cette population réticente, elle n'est pas si importante que ça. Elle est très diverse. Il y a des réticences qui sont faciles à lever. Il y a des anti-vaccins, quand ils seront à l'hôpital et qu'ils seront malades, je pense que c'est eux-mêmes qui vont convaincre les autres. Le monde du travail va, à mon avis, réagir parce que faire rentrer un virus dans une entreprise, ce n'est pas un objectif. Et donc, je pense qu'il va falloir que les entreprises se mobilisent pour aider et convaincre, parce que là, vraiment, il y a danger. Ce n'est pas possible de rester avec l'idée « j'ai la liberté de me contaminer ». Non, on n'a pas la liberté d'aller en réanimation.
Il y a la vaccination et puis il y a aussi les tests. Il y en a plus de 6 millions qui ont été réalisés la semaine dernière. C'est un record absolu, c'est l'effet passe sanitaire. Est-ce que la fin de la gratuité de ces tests, qui est prévue pour l'heure à la mi-octobre, vous inquiète ?
Écoutez, ça m'inquiète à moitié parce que c'est octobre. Je pense que d'ici là, il faut vraiment mesurer ce qui se passe. Il est extrêmement important de rester vigilant et d'avoir l'épidémie sous haute surveillance. Donc je pense qu'il faut aider le maximum de gens à aller vers les tests, parce que voilà, ça identifie les positifs, ça identifie les clusters. Après, est-ce que ça va suffire pour convaincre les anti-vaccins? Personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincue. C'est sûr que la question de l'argent et du coût du test va peut-être démobiliser un certain nombre d'entre eux, mais pas tous.
Et puis, elle risque aussi de perdre le fil de cette épidémie, de ne plus savoir la mesurer, de ne plus pouvoir la contrôler précisément.
Ah ben oui, on n'a plus du tout les mêmes dénominateurs. Les asymptomatiques ne seront plus identifiés. Les post-symptomatiques resteront chez eux avec un peu de fièvre pendant 8 jours. Ils n'iront pas vers le test. Donc tout ça est, à mon avis, assez dangereux. Je pense que c'est d'ici le 15 octobre. Il faut attendre, quoi. Ça change au jour le jour. C'est difficile d'anticiper ce qui va se passer mi-octobre. Peut-être que le gouvernement décalera encore cette mesure.
Merci beaucoup, Christine Rousiou, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de virologie et membre de l'Académie de médecine. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Il est 6h22 sur Europe 1, matinale toute info avec le journal permanent d'Élise Danjean. À la une, Élise.
Joe Biden n'exclut pas de prolonger la présence américaine en Afghanistan. Selon le locataire de la Maison-Blanche, des discussions sont en cours pour laisser, si nécessaire, des soldats sur place au-delà du 31 août. Date butoir du retrait des troupes. Plus de 100 000 Américains privés d'électricité après le passage de la tempête Henri dans le nord-ouest du pays. Désormais menacés d'inondations. Une campagne de vaccination débutera dès la rentrée scolaire dans les collèges et lycées français. Objectif, vacciner les élèves volontaires de plus de 12 ans. Annonce hier du ministre de l'Éducation nationale dans le journal du dimanche. Deux hommes tués par balle, un corps retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. La violence monte d'un cran à Marseille. 4 jours après la mort d'un adolescent près d'un point de vente de drogue. Et puis c'est un match dont on ne connaîtra jamais la fin. La rencontre Nice-Marseille hier stoppée à la 75e minute à cause de jets de projectiles. Plusieurs supporters ont envahi le terrain. Les Marseillais dominés 1-0 n'ont jamais voulu reprendre le match.
Merci Élise Danjean. Prochain journal complet à 6h30.
C'est le rendez-vous musical incontournable de cette matinale. Votre partition, Omblin Roche, qui se cache derrière un artiste, un disque, un concert ou encore une chanson. On a coutume de dire, Omblin, que le rock est mort 1000 fois. Et pour certains, The Strokes se présentent comme les sauveurs du rock, un style, on va dire, post-punk, en marge de ce que l'industrie musicale produit au début des années 2000.
Rappelez-vous, Julien, le 21e siècle commence en se balançant sur des musiques pop, alors sans forcément apparaître comme révolutionnaire. Il y a quelque chose de nouveau dans ce que proposent ces 5 musiciens new-yorkais. Pas question d'abuser de logiciels à la mode pour améliorer la qualité de l'enregistrement. Le rock de The Strokes se veut authentique à l'image de la voix éraillée de son chanteur, Julian Casablancas.
Avant de devenir incontournable en 2001, The Strokes ont vu le jour 3 ans plus tôt, en 98.
Oui, mais ça fait un moment qu'ils jouent ensemble, comme s'il existait, vous savez, un adage ancestral, les grands groupes de rock se fréquentent depuis l'enfance. Julian Casablancas et le bassiste Nikolaj Fretur se rencontrent sur les bancs du lycée français de New York, rapidement rejoint par le guitariste Nick Valensi et par le batteur Fabrizio Moretti. Ils ont à peine 20 ans quand l'arrivée d'un deuxième guitariste va cimenter le groupe, Albert Hammond Jr. In many ways, they'll miss the good days. Someday.
Ça rappelle des souvenirs. Hein. Ouais, ouais. Juste 20 ans, des looks dominés issus de bonnes familles, mais les Strokes sont désormais déterminés à transgresser les règles.
Avec une musique rock garage brute, des guitares saturées, des rythmes de batterie précis et carrés, le son de The Strokes, né après 4 années passées à user les planches des petites salles de concert, ce qui leur permet de se faire remarquer et d'enregistrer un premier mini-disque baptisé The Modern Age en janvier 2001.
Les maisons de disques ne ménagent pas leurs efforts pour signer leur premier album, mais c'est un label londonien qui décroche le pactole.
Le prestigieux label indépendant Rough Trade, connu pour avoir lancé notamment la carrière de The Smiths.
Yeah. pris quelques mois suffisent pour que les Américains de The Strokes soient adoubés par les Britanniques.
Aux côtés des Libertines de Peter Doherty, ils prennent possession du terrain damé par le groupe très respecté Radiohead. Et leur album Is This It question sans point d'interrogation sort en quelques semaines. Il faut dire que The Strokes avait déjà quelques années derrière eux de composition.
Et ce disque, on le retrouve d'abord dans les bacs australiens, anglais et européens.
Effectivement, avec comme pochette une main gantée de cuir noir posée sur les fesses d'une femme, une image du photographe Colin Lane. Et pour le clin d'œil, la mannequin qui pose était alors sa petite amie fraîchement sortie de la douche. Cette photo jugée trop choquante pour les Américains explique en partie le retard de la sortie de l'album aux États-Unis. On va préférer une pochette plus psychédélique et colorée. Mais ce n'est pas tout. Entre-temps, l'Amérique va être meurtrie par les attentats du 11 septembre. Un titre un peu moqueur sur les policiers de New York, jugé inapproprié dans de telles circonstances, va être retiré. Quoi qu'il en soit, le succès des Strokes en 2001 ne fait que commencer. Last Night, extrait du premier album des Strokes, Is This It, dont on fêtera les 20 ans de la sortie ce vendredi. 23 ans de plus pour le chanteur Julian Casablancas, avec sa voix, vous savez, un petit peu déformée, qui se déchire hein, parfois.
Et bien, c'est tout le charme.
Ouais, il a 43 ans aujourd'hui, Julian Casablancas.
Merci beaucoup, Omblin Roche, pour cette partition. Europe 1.
Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent début de matinée avec nous à l'écoute d'Europe 1.
Et il est temps pour nous, Omblin, de passer la main. On vous retrouve avec le sourire et le plein d'infos dès demain 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Les Strokes, les crises cardiaques, ouais. pour commencer la journée, il y a que ça de vrai.
Merci à vous sur cette antenne.
Merci beaucoup
Julien. Dans cette belle
Julien.
Maison bleue.